créer, de partager mon univers. D'avoir un endroit où, en fait, quand tu rentres là-dedans, c'est les photos nocturnes, c'est toutes les aventures que je partage sur les réseaux sociaux.
Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe, l'émission photo qui vous aide à vivre de la photo et réussir votre reconversion dans la photographie. Je suis Régis Moscardini, photographe, coach business, et j'aide mes clients dans la construction de leur propre métier de photographe pour qu'ils puissent accomplir de grandes choses dans leur vie. Je suis ravi de vous retrouver. Juste avant de vous présenter mon invité, je vous annonce que depuis un mois, ma formation « Créer sa micro-entreprise dans la photographie » est enfin éligible au CPF. Ce qui signifie tout simplement que vous pourrez dès à présent financer avec vos crédits CPF votre inscription. En deux mots, c'est un programme complet de formation en 13 chapitres pour créer et faire vivre sa micro-entreprise photo, mêlant cours en vidéo, coaching individuel et collectif, masterclass de haut niveau et communauté d'entraide. Donc si créer votre propre entreprise photo fait partie de vos projets, eh bien c'est fait pour vous. Le lien direct pour en savoir plus est dans la description de l'épisode. Allez, à présent, place au podcast et surtout à mon excellente invité. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de Jeff Graffy, photographe de paysages nocturnes. Ce fut un vrai plaisir de l'interviewer pendant un peu plus d'une heure. Ensemble, on a discuté, on a parlé de photographie nocturne évidemment, particulièrement d'une technique que Jeff a utilisée, celle du timelapse. Il a d'ailleurs obtenu un prix prestigieux grâce à son timelapse que vous devez, je vous invite vraiment à le faire, à aller voir sur son compte Insta. D'ailleurs, le lien de son compte est dans la description de l'épisode. On a aussi évoqué la photographie nocturne en noir et blanc et tout ce que ça peut apporter aux photographes en quête de progression. La petite clochette que vous entendez, c'est celle de mon chat. Sur la dernière partie de l'interview, j'ai questionné Jeff sur son tout nouveau projet, un sacré projet, à savoir la création et le lancement de sa propre galerie photo. De vrais conseils, sensés et pertinents à écouter sans modération, et vous verrez vite qu'avoir sa propre galerie photo quand on est photographe, eh bien, ça n'est pas si fou que ça en a l'air. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Jeff.
Salut Régis.
Comment tu vas ?
Ben ma foi, ça va, en pleine bourre, en pleine préparation pour cet été, mais ça va, il fait souvent beau ici, donc ça met de bonne humeur.
On se retrouve finalement parce que j'avais déjà fait une interview avec toi, c'était en novembre 2020, donc je t'avais interviewé à l'époque, on avait discuté de toi, ta pratique photo, de ton parcours de photographe, de ce que tu mettais en place pour voilà, générer du revenu par rapport à ta photographie, ce que tu faisais aussi comme genre de photographie. Mais aujourd'hui, on va parler d'un point un peu plus particulier, qui est celui de galerie photo, mais sous un angle vraiment un peu rare, parce que finalement, tu vas ouvrir ta propre galerie photo. Et ça, c'est quand même un événement assez fort dans la vie d'un photographe. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc, on va parler de ça, mais avant d'aller sur ce terrain-là, voilà, tout ce que tu as dû... dire, je mets des guillemets, mais affronter pour y arriver. On va quand même parler photo parce que on est entre photographes, ce sont des photographes qui nous écoutent, donc on va quand même parler photo. Déjà, juste, allez, la petite question qui va bien, quand même, pour ceux qui te découvrent, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent le podcast depuis pas très très longtemps et qui n'ont pas écouté ta première interview. Jeff, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ?
Alors moi, c'est Jean-François, d'où alias Jeff. J'ai développé ma marque de Jeff Graffy, où je pratique la photographie plutôt de paysages nocturnes maintenant. Et je me suis mis à mon compte il y a maintenant un an et demi, donc depuis janvier 2021 de manière officielle. Mais avant ça, j'étais parti en STAPS pour être prof de PS en fait. Et puis il y a eu diverses opportunités qui ont fait que j'ai un peu bougé. J'ai commencé à travailler à l'observatoire de Saint-Véran pour faire des animations d'astronomie, parce que je suis passionné d'astronomie depuis que j'ai 7-8 ans. Et la photographie est venue un peu après, vers 14-15 ans à peu près. Donc j'ai commencé à toucher l'appareil photo. Et puis, en fait, rapidement, j'habitais en Ile-de-France à l'époque. Et rapidement, je trouvais qu'il y avait des choses vraiment extraordinaires qui étaient pas très loin, en fait, qui étaient dans un rayon de quelques kilomètres de chez moi. Et puis, je trouvais ça dommage que je suis entouré de gens qui râlent, qui trouvent qu'il y a toujours un truc qui va pas, alors qu'en fait, il y a des choses super jolies qui sont autour de nous. Donc, j'ai commencé un peu à photographier ce qu'il y avait autour de nous, comme ça. Donc, principalement, les quelques paysages, les animaux. Donc, à vélo. Je faisais mes déplacements à vélo. Et aujourd'hui, je vis dans les Alpes du Sud, dans le Cara, où du coup, je développe mon activité de photographie, vraiment spécifiques de paysages nocturnes, donc photographier le paysage, des fleurs, des lacs, mais de nuit, soit voie lactée, soit sous le clair de lune. Donc essayer de trouver une autre vision. Voir, je dirais classiquement en fait des photos de jour, mais plutôt de nuit en fait.
Quand on dit que tu fais de la photographie astro, c'est alors on pourrait presque dire qu'il y a différents types de photographie astro, dans le sens où on peut imaginer que certains font que des nébuleuses, que des galaxies, que des objets du ciel profond, ou que de la Voie lactée par exemple, ou que des planètes peut-être. Toi, tu vas inclure dans tes photographies de nuit, c'est des paysages nocturnes en fait, hein, ce qui donne ce côté vraiment très très surprenant, particulier, puisque c'est un point de vue de la vie finalement qu'on n'a pas, puisque on est quand même plutôt des animaux diurnes, donc la nuit on dort, sauf des gens comme toi qui vont passer un peu plus de temps éveillés et qui du coup nous permettent de voir ce que nous on n'a pas peut-être le courage d'aller voir, parce que faut se lever, parce qu'il faut aller dans des endroits un peu particuliers, il faut marcher longtemps, très tôt le matin ou plutôt tard le soir. Donc ce sont des gens comme toi qui nous permettent de voir cette beauté du monde si particulière. Il y a quand même un truc que tu as dit et que je trouve assez puissant, sans peut-être même t'en rendre compte. Quand tu étais en région parisienne, tu t'es rendu compte que les gens râlaient pas mal, n'avaient pas forcément le sourire, alors qu'il y avait des choses incroyables à voir autour de chez eux et pas loin du tout. Et toi, tu as eu envie de leur montrer ça grâce à tes photographies. En fait, tu veux dire de manière un peu indirecte, mais moi je le transforme en manière directe, que tu cherchais à rendre heureux les gens avec tes photographies, sinon c'est ça en fait, non ?
Bah ouais, alors c'est plutôt, alors pour toi c'est peut-être direct.
En tout cas, rendre leur sourire, quoi.
Ouais, puis c'était parce que moi, enfin, c'est toujours pareil, c'est l'interprétation des choses. Moi, quand je bossais en job étudiant. Il y avait quand je me souviens, quand on était en pause, quand il pleuvait, les gens râlaient, enfin ils disaient ah il pleut, c'est naze machin, et quand il faisait beau ils râlaient aussi, ils disaient ah il fait beau, on est à l'intérieur en train de bosser. Je suis là, mais alors que moi en fait j'ai déjà eu des animaux, des renards, je suis allé voir des paysages à vélo, et ayant ça en tête, je me dis mais pourquoi en fait, enfin il y a des choses qui sont faciles d'accès en plus, et effectivement pour moi c'était plus alors le côté direct, ça serait de montrer que regardez, c'est beau en fait. On dit souvent l'Île-de-France, on associe l'Île-de-France à Paris, ce qui est assez triste finalement, parce qu'il y a des choses extraordinaires. Le côté indirect, c'est de rendre les gens heureux, leur montrer que en fait il faut sortir, en fait il faut pas rester chez soi, il faut sortir, pas hésiter à bouger. Il y a plein de belles choses déjà, il y a plein de belles choses à voir, quoi.
Est-ce que tu penses que à certains égards que tu as pu réussir cette mission que tu t'étais donnée, mais de manière un peu informelle, quoi. T'as pas écrit sur un bout de papier je veux rendre heureux les gens grâce à mes photographies, mais voilà, tu as envie de quand même de faire ça. Est-ce que t'as un exemple à donner, un exemple précis particulier d'une personne qui aurait pu te dire grâce à tes photographies, je me rends compte qu'il y a des choses à voir que je voyais pas alors que c'est à 3 km de chez moi.
Alors j'ai pas eu de retour forcément direct avec des messages privés en me disant grâce à toi je vais voir dehors, etc. Je plutôt sur les commentaires ou surtout en ce moment où c'est plutôt des remerciements en commentaire en disant merci pour cette vue, parce que moi à mon âge je peux plus y aller, ou X raison, parce que physiquement je peux pas, parce que je suis loin, parce que ça me permet de m'évader. J'ai plutôt ce genre de commentaires, mais pas de messages directement remerciant en disant tiens je vais grâce à toi je vais j'apprécie mieux ce qu'il y a autour de moi. Je suis pas sûr. Alors, je pense c'est finalement quasiment la même chose, mais d'une manière plutôt indirecte en fait.
Ouais, d'accord. Oui, non, mais bien sûr. Et puis c'est vrai que au final, on est un peu tous pareils, hein. Franchement, on peut pas jeter la pierre aux gens, parce qu'on est aussi nous les gens. Nous-mêmes, on n'est pas toujours en train de remercier des gens finalement. Tu vois, on aimerait que les gens nous remercient finalement, ou nous disent des choses, mais nous-mêmes, on le fait pas ou très peu. On va parler un peu plus. Allez, vraiment. Photo, vraiment un peu technique même d'ailleurs, peut-être presque même trop technique j'ai envie de dire, mais si justement c'est ça qui est hyper intéressant, c'est jamais trop technique de toute façon pour nous photographes. Sur ton compte Instagram qui a d'ailleurs bientôt 2000 abonnés, Jeff, c'est chouette ça, hein. Ça arrive, ouais. ça monte tranquillement. Donc tu as posté il y a, forcément ça dépendra de quand les gens vont écouter l'interview, mais tu as posté il y a pas très très longtemps un post justement où tu as publié ce qu'on appelle une timelapse. Et cette timelapse a d'ailleurs fait un chouette résultat parce qu'elle a été primée, hein, troisième à un concours. Juste, c'était quoi ce concours exactement?
En fait, c'est un concours organisé par une association qui s'appelle Chasseurs de Nuit et qui est le Photo Nightscape Awards. Et en fait, il est classé comme le deuxième plus important concours international justement de photographie nocturne, avec différentes catégories. Catégorie de paysage nocturne et une catégorie où l'idée c'est de prendre en photo la nuit mais en ville. Donc soit une ville, un village, etc. Il y a une catégorie timelapse, effectivement, et une catégorie smartphone qui est assez récente. Ou pareil, l'idée c'est de prendre en photo la Voie lactée, le ciel étoilé en fait, mais avec un smartphone. Donc et comme les smartphones sont de plus en plus performants là-dedans, donc c'est intéressant parce que ça permet vraiment de montrer que même avec un smartphone, on peut faire déjà des premiers résultats. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie noir et blanc, donc voilà, côté qui est plus délicat, je trouve, à travailler de nuit, parce qu'avoir du noir et blanc de nuit, c'est quand même c'est vraiment pas évident. Donc j'ai pas concouru là-dessus. Si j'ai concouru, c'était cette année, bien sûr, dans cette catégorie, mais c'est pas évident, ouais.
C'est pas évident. Et puis après, c'est vrai que le noir et blanc, alors quand on voit tes photographies sur ton compte Insta, et beaucoup d'ailleurs de photographies sur d'autres comptes, ou même pas forcément des comptes Insta, mais ailleurs, de photographies, astro, de paysages nocturnes, on est quand même dans des images toujours assez saturées, finalement, tu vois, c'est assez punchy, parce que la Voie lactée, c'est... Alors, on la voit pas forcément comme ça, évidemment, à l'œil nu, mais on est habitué à voir ce genre de post-traitement, à voir ce genre de traitement. Le noir et blanc est quand même plus surprenant, et il faut avoir un œil un peu plus éduqué en tant que spectateur, finalement, pour le noir et blanc.
Ouais. Ouais, faut déjà faire du noir et blanc de base, parce qu'il y a quand même des règles de composition, qui sont quand même différentes quand on fait de la couleur, ou alors faut déjà bien connaître son ambiance nocturne, son ciel, etc. Parce que, des fois, j'essaie de passer des photos nocturnes noir et blanc, ça attire beaucoup moins l'œil. Et c'est vraiment un autre, c'est un autre travail, quoi.
Ouais, un autre travail. Et oui, en fait, il suffit pas de prendre une photographie faite normalement, dire tiens, je vais voir normalement ce que ça fait. Ça souvent ça fonctionne pas, en tout cas pas dans cette thématique photo qui est la photographie astro, quoi. Il y a des règles un peu plus subtiles, un peu plus précises, notamment sur les contrastes, par exemple, sur les formes aussi, mais ça peut être aussi un bon exercice pour travailler son œil, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je veux dire, de se dire, allez, pendant le mois qui vient, par exemple, je m'astreins à ne faire que des photographies en noir et blanc. Ça peut être aussi un bon exercice, non?
Je pense que ça peut être un bon exercice, et si on veut aller plus loin, ça permet de montrer que, je parle souvent avec on dit souvent, c'est quoi tes réglages, c'est quel appareil photo tu as utilisé pour faire la photo, mais je leur dis souvent, gars, je peux dire, voilà, j'ai tel appareil, tel réglage, mais c'est pas ça qui va vous faire, qui va vous dire, faut être là à telle heure, à tel moment, à tel endroit, avec telle composition, telle règle, ça, pareil, il va pas vous le faire. Donc, en fait, le fait, je pense, de travailler le noir et blanc, ça va obstruer ce côté, il faut the appareil, les réglages qu'il faut, etc. Et parce que peut-être que je suis même sûr, hein, que le noir et blanc, ça permet vraiment un gros travail de composition, et c'est de donner de la profondeur et du volume à la photo. Et c'est le côté le plus pénible et le plus long, en fait, quand on veut composer. Donc je pense que c'est un super exercice, en fait, parce que même moi, quand je vais faire mes photos, t'as souvent un peu de pollution lumineuse, t'as une teinte bleue qui peut être présente, mais dès que tu la fais en noir et blanc, en fait, ces deux teintes se mélangent complètement, donc tu sais pas, ça reste assez plat. Donc l'exercice de faire complètement du noir et blanc, ça peut c'est un super exercice, mais ça prend encore plus de temps, je pense.
Super intéressant ce que tu dis, et en fait je me rends compte que moi qui fais, alors beaucoup moins que toi évidemment, mais qui fais aussi un petit peu de photographie astro, de voie lactée par exemple, il suffit d'avoir quelques petites... Et c'est très simple, hein, je veux dire, voilà, tu fais une pause longue, après on peut aller très loin dans le réglage et vraiment affiner vraiment la chose, mais en tout cas, je pense qu'assez rapidement, avec un appareil qui tient la route, avec des réglages manuels bien faits en suivant quelques règles de base, mais très très simples, on a vite des résultats très flatteurs, vraiment très très flatteurs. Donc c'est hyper encourageant évidemment, mais ça peut être piégeux parce que justement on peut aussi tomber dans cette facilité. En gros, comme c'est beau, comme c'est hyper flatteur et qu'on montre ça à quelqu'un qui s'y connaît pas trop, il va dire « Waouh, c'est incroyable ce que tu as fait, comment tu fais ça ?» On va sentir fort et c'est très bien, ça donne du courage et ça donne de la confiance, c'est super. Mais par contre, c'est vrai que on va peut-être oublier, on va oublier les fondamentaux esthétiques et d'aller vraiment aller chercher ce qui fait la force d'une photo. Tu as parlé de volume, quand on parle de photographie, parler de volume, c'est assez contre-intuitif et pourtant c'est ce qui va donner vraiment beaucoup de puissance à l'image. Et peut-être que le noir et blanc, de travailler le noir et blanc, mais dans n'importe quel type de photographie, il est probable que ça puisse justement aider à aller chercher des choses qu'on ne ferait pas en couleur parce qu'on va s'attacher que sur le côté hyper flatteur de la couleur justement, alors que le noir et blanc va aller nous obliger à aller chercher autre chose. Et après, on s'en servira pour la couleur finalement.
Ouais, c'est toujours ça. C'est tu t'en sers toujours. Après, c'est ce qui va faire la différence. Ce que tu disais en prenant les étoiles en photo, finalement, c'est vrai que en soi, c'est assez simple une fois que tu as compris les réglages, etc. Donc, tu prends la photo, mais là, il y a une différence après entre prendre la Voie lactée en photo et faire ta photo. Donc, ça permet vraiment de fabriquer, du coup, ta photo. Donc, c'est là où faut le temps, faut avoir, je pense, une petite idée en tête avant de commencer. Puis, essayer, échouer encore et encore, puis jusqu'à arriver à un résultat qui nous convient.
C'est ça. C'est ça, exactement. On était quand même parti. Enfin, j'étais parti sur la timelapse, justement, ça.
Et puis oui, c'est vrai.
On est parti un peu plus sur d'autres choses. Mais alors voilà, justement, allez, un petit point là-dessus. Déjà, techniquement, c'est quoi une timelapse? Ou un timelapse, d'ailleurs, je sais pas.
Je crois que c'est un timelapse, il me semble.
Voilà, c'est ça.
Je dis souvent mais il me semble que c'est un timelapse. L'idée du timelapse, c'est de faire une courte vidéo sur un temps. L'idée, c'est de faire une vidéo de 10 secondes, et en fait, sur 10 secondes, il y a des prises de vue qui ont été prises. Ah, alors attends, je m'y perds. L'idée, c'est de prendre des photographies à intervalles de temps réguliers et de composer tout ça de sorte à en faire une vidéo en accéléré. Donc, c'est-à-dire que si on prend des photos, je sais pas, toutes les 10 secondes pendant 2 heures, et qu'on en fait un film de 5 ou 10 secondes, l'idée c'est de montrer en 10 secondes ce qui s'est passé pendant 1 à 2 heures en fait. Donc d'avoir un mouvement en accéléré, c'est ce qu'on a des fois, les mouvements de nuages qui vont assez vite, ou alors les étoiles qui tournent dans le ciel en quelques secondes.
Ok. Ouais, on peut donc avoir quelque chose de... Alors ça dépend du traitement qu'on va faire et de la fréquence qu'on va appliquer à l'enchaînement des images, mais on peut avoir quelque chose d'assez saccadé finalement, quelque part. Est-ce que c'est exactement ce que fait... pardon pour la référence, hein, on n'est plus trop dans la photographie, mais en fait si. Voilà, c'est Gromit. Hein, c'est ça finalement, hein, c'est les sculptures en petites pâtes à modeler, c'est des enchaînements de photographies. À chaque fois, on prend une photographie sur un mouvement particulier du personnage, et puis on décale un tout petit peu le bras de quelques millimètres, on fait une photographie, et puis au bout d'un moment, ça finit par faire un film.
Ça reste ça.
Mais toi, ta timelapse que tu as faite là, finalement, ce qui est assez fort, c'est que, ton timelapse, décidément, c'est que on pense que c'est une vidéo, c'est-à-dire qu'on aurait l'impression que tu as vraiment filmé en vidéo avec ton appareil photo ou autre chose, et ça donne cet effet-là parce qu'il n'y a aucune saccade.
C'est ça. L'idée, c'est de faire comme un film, en fait, avec une cadence de 24 images secondes. Donc, en fait, ça veut dire que, comme c'est des pauses, en plus, qui vont entre 10 et 15 secondes sur chaque photo, c'est-à-dire que pour une seconde de film, il faut entre 15 et 25 minutes de prise de vue.
Donc, je résume quand même. Je le dis pour moi pour que je puisse bien comprendre. Tu veux avoir cet effet film, donc il faut, donc c'est l'œil humain, c'est le cerveau humain qui traite ça, donc il faut un minimum de 24 images par seconde pour avoir cet effet de film normal, voilà, sans l'impression de saccade. Ça, c'est un minimum. Et par contre, toi, dans ton cas de figure à toi, ce sont des photographies particulières de paysages nocturnes, donc il faut quand même que la lumière qui est assez peu présente à ce moment-là rentre sur le capteur, donc il faut un temps d'exposition assez long,
ouais.
Tu dis de 20 secondes, donc ça veut dire que plus ton film va être long, plus ça va rajouter des photographies, et à chaque fois c'est 15 ou 20 secondes de post-traitement, pas de post-traitement, de pause,
ouais.
Donc ça veut dire que tu as pris, en gros là, pour nous dire, ton film là que tu as publié sur ton compte Insta, qui dure combien de secondes et combien de temps de prise de vue t'as eu? T'as
et dû, ben, à, tu à, vois, là, le timelapse, du coup, enfin, l'ensemble, du coup, avec les différents plans que j'ai proposés, il y a 830 photos, en fait, qui ont été faites et, sur une durée totale de 4 heures, en fait. Il y a 4 heures de prise de vue, en tout, pour 31 secondes de film. Donc, wow. Sachant que ça va de, tu vois, j'ai utilisé deux APN pour avoir un plan avec le rail. On voit le premier plan qui bouge et un fixe en train de filmer un peu en.
Donc t'as fait le making of en plus, quoi, c'est ça?
Ouais, c'est ça, voilà. C'était un peu l'idée. C'est à la fois, tu rentres dans le mouvement autour de la fleur du début de printemps, et puis tu sors avec le plan suivant. Donc tu vois le rail, enfin l'appareil photo qui bouge sur le rail. Donc il donne une autre impression. Puis après tu re-rentres dans le film. Je trouve que ça fait vraiment il y a vraiment deux effets complètement, enfin, qui sont assez sympas. Donc, du coup, en tout, là, il y a 4 heures, il a fallu 4 heures de prise de vue pour ces 31 secondes de film.
4 heures de prise de vue, ça veut donc dire que il faut que tu sois sur place. Bon, ouais. Il est évident que c'est pas toi qui vas appuyer 800 fois sur le déclencheur. Donc là, ça veut dire que tu vas utiliser le programme interne de l'appareil, parce qu'il y a tous les appareils modernes ont un programme timelapse, ou est-ce qu'il faut quelque chose d'extérieur parce que c'est très long, parce que c'est quand même très spécifique, comment tu t'organises là-dessus?
Alors c'est vrai que maintenant, alors je sais pas trop les appareils de maintenant, je pense qu'ils ont une fonction intervalomètre ou timelapse, je pense que ça doit...
Ah oui, la plupart ont ça.
Parce que là les miens, alors moi c'est donc le timelapse a été fait avec un Canon 1100D et un 5D Mark III, donc c'est quand même pas des derniers cris, et en fait il n'y a pas d'intervalomètre qui sont inclus dedans, donc soit on branche un intervalomètre à l'extérieur, soit on a un petit programme qui s'appelle Magic Lantern qui permet d'avoir un intervalomètre intégré.
C'est sur Canon, hein?
Ouais, c'est sur Canon, exclusivement. Et du coup je me sers de ça parce que du coup c'est vachement bien, tu dis voilà, je veux que tu prennes une photo toutes les X secondes, un intervalle de temps régulier, donc je le fais là-dessus, et le slider que j'ai, en fait, tu le pilotes avec ton smartphone, donc dans le moteur, t'as une mémoire, donc qui permet de brancher avec ton appareil photo, et depuis ton smartphone, tu peux faire tes réglages dessus, tu peux dire, voilà, je veux que tu fasses 240 images, donc c'est-à-dire que le slider fait 80 cm de longueur. Et ben je veux que sur les 80 cm de longueur tu fasses 240 images tel intervalle de temps, donc voilà, c'est des choses qui peuvent se faire, donc mais ce sont pas des programmes qui sont intégrés, quoi.
L'idée c'est que il faut pas que, donc t'as installé un rail, il faut vraiment aller voir sur ton compte, je mets ton compte en description, ouais. Donc il n'y a plus qu'à cliquer dessus, et on verra très vite ton post timelapse. T'as un rail qui est une espèce d'arc de cercle. En fait, l'idée, c'est qu'il ne faudrait pas que les 800 photos soient faites alors que ton rail, il est à moitié chemin, quoi. Donc, il faut aussi calculer, le fait que les dernières photos puissent arriver quand le truc, il arrive à la fin du rail.
Ouais. Après, tu peux l'utiliser juste sur la moitié de ton rail, hein. C'est pas un souci. Mais c'est vrai que du coup, le fait qu'on voit la fleur qui est un peu englobée parce que l'appareil va tourner autour, ça va être moins présent, du coup. Donc,
oui, c'est vrai. Pour un aspect plus immersif, tu as voulu effectivement aller le plus loin possible dans cet arc de cercle. Une autre question encore là-dessus, parce que je trouve ça assez fascinant par rapport à la patience que ça engage, par rapport à aux compétences techniques que ça engage, aux compétences matérielles que ça engage également. C'est un vrai, c'est un vrai challenge que tu t'es imposé là-dessus. Quand tu lances le truc. Toute la cavalerie à faire tes 800 photos là à 15-20 secondes d'exposition, c'est ça. Il faut que tu sois certain que c'est les bons réglages. C'est pas quand tu vas aller sur ton ordinateur que tu te rendras compte que mince, t'as exposé pendant 15 secondes, il en aurait fallu 25. Tu vois. Donc pourtant en 4 heures, les conditions lumineuses, elles changent. Il y a une partie jour, une partie nuit, enfin, et comment ça se passe, quoi, parce que voilà, comment tu fais pour que ces 15 ou 20 secondes donnent pas des images trop cramées quand il y a beaucoup de lumière, ou donnent pas des images trop sombres quand il n'y en a pas assez?
Et ben en fait là, ces prises de vue là, sur les timelapses, on voit un moment où ça commence à être un peu plus clair dans le ciel, en fait c'est la lune qui se lève. Donc en fait, ça émet un peu de lumière, mais pas non plus des masses en fait. Donc en fait, quand on est en pleine nuit et quand la lune se lève notamment, je peux rester sur mes réglages fixes en fait, sur entre 15 et 25 secondes en fonction des conditions de lumière. Faut savoir que là, c'est quand même, c'est vraiment très noir parce que c'est, il y a vraiment quasiment pas de pollution lumineuse. J'étais vraiment encaissé, donc il y a encore moins de pollution lumineuse. Je m'arrange pour avoir le maximum de lumière en fait sur 20 ou 25 secondes de prise de vue pour éviter que l'arrière-plan soit forcément, enfin que les étoiles fassent un filet d'étoiles, parce que si on expose trop longtemps, on est soumis à la rotation de la Terre. Mais comme là j'ai fait la mise au point sur la fleur, en fait je peux augmenter mon temps de pose jusqu'à 30, 45, voire une minute sans qu'on voit ce filet d'étoiles. Sauf que ça veut dire que si je fais une photo par minute, eh ben il faut encore plus de temps pour faire le même temps de timelapse, tu vois. Donc il y a un moment, faut se dire bon, ça va prendre tant de temps, il faut que j'arrive à exposer suffisamment longtemps pour avoir de la lumière, mais pas trop, parce que sinon ça va me prendre beaucoup trop de temps, et à un moment ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc après, de nuit, quand on est vraiment en nuit noire, j'ai des réglages à peu près, on tourne toujours à peu près sur les mêmes réglages. Par contre, quand il y a la lune, on va exposer aussi longtemps, mais en faisant deux trois modifs, parce que là c'est entièrement de nuit, donc il y a le changement de lumière, il est assez peu présent par rapport à si on veut faire un timelapse de transition jour-nuit. Là effectivement faut manipuler un peu plus, faut être un peu plus à côté de l'appareil photo, quoi.
C'est ça, un peu moins automatisé. J'ai encore deux questions là-dessus, en tant qu'il y en a une qui me vient tout de suite. Si quand même la première, c'est, tu dis qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, à un moment il n'y avait pas de lune, ou en tout cas très très peu, quand même les sources de lumière sont vraiment très limitées. C'est uniquement la source de lumière qui vient des étoiles finalement ici, hein. Il y a rien d'autre finalement là.
Alors à part les étoiles, et puis il y a Turin qui est en Italie qui diffuse pas mal, ça veut dire un peu éclairé, mais vraiment vraiment pas grand chose en fait, parce que malheureusement la nuit noire en France ça n'existe plus, c'est pas comme si on va au centre d'un désert en Australie ou au Chili, la nuit noire vraiment ça malheureusement ça n'existe plus. Il y a toujours un peu de lumière, et qui fait que même en pleine nuit on arrive quand même à se déplacer. Alors, se déplacer, parce que bon, on a l'habitude, etc., mais il fait quand même vraiment, vraiment noir. Après, effectivement, c'est la lumière des étoiles qui va venir éclairer une partie du sol, en fait, et du paysage.
Quand même, donc ça... Enfin, c'est fou, là on n'est plus dans la photographie, mais je trouve ça assez fascinant. C'est que ces étoiles-là, bon, il y a des milliards et des milliards et des milliards, forcément, mais celles qu'on voit, nous, dans le ciel à la nuit, il y a peut-être, je sais pas moi, 3000, peut-être dans un très bon ciel étoilé, 3-4000 étoiles qu'on peut voir... Malgré tout, ces étoiles qui sont très très lointaines, elles arrivent à éclairer un tout petit peu le sol, et 15-20 secondes d'exposition photo permet de profiter de cette lumière d'étoiles finalement.
Ouais. Ouais, c'est ça qui est dingue, fou. Hein. Il y a même une expérience que je faisais quand je faisais les animations d'astronomie à l'observatoire, quand il y avait la Voie lactée, surtout l'été, en fait, je disais aux gens, prenez votre main, vous la mettez face à la Voie lactée, comme ça, et avec votre deuxième main, vous passez votre main, et en fait, on voit l'ombre de la main qui passe sur la main, parce que c'est la Voie lactée qui éclaire. Et je trouvais ça assez dingue, parce que juste avec la lumière de la Voie lactée, en fait, on voit que ça éclaire, et en fait, on voit notre ombre. Je trouvais ça assez dingue, en fait, de pouvoir faire ça.
C'est fascinant, et j'essaierai cet été, c'est dingue.
C'est un ciel bien noir, t'essaies, puis tu vois, c'est léger, hein, mais tu vois ton nom. Je trouve ça assez marquant comme test de qualité de ciel.
Ouais, complètement. Ouais, c'est assez dingue. Bon, de toute façon, on le sait très bien, hein, notre soleil n'est ni plus ni moins qu'une étoile, sauf qu'elle a le mérite d'être très proche, et c'est ce qui fait qu'elle nous éclaire bien plus que les autres qui sont, elles, bien plus lointaines. Autre question par rapport à ce fameux timelapse, je trouve ça vraiment, vraiment génial comme technique, et surtout comme résultat, c'est vraiment assez bluffant. Quand on fait la photographie astro, on est vite soumis à une problématique qui est celle du capteur qui va chauffer et qui va donc générer du bruit, voilà, clairement. Donc là, tu fais quand même... Alors, c'est pas des pauses hyper longues, c'est pas plusieurs minutes. Mm-hmm. On va dire 15-20 secondes, on peut dire qu'il va pas forcément chauffer en tant que tel sur une prise de vue, hein. Mais par contre, quand tu enchaînes comme ça, ça peut poser problème. Tu dois trouver des solutions pour pas qu'au bout d'un moment, ton capteur finisse par devenir incandescent. J'exagère, mais tu vois l'idée.
Et ben en fait, on va dire que un capteur, il met pas mal de temps à chauffer, vraiment, il faudrait qu'il faut entre 20 et 30 minutes pour qu'il monte vraiment en température. Et par contre, il lui faut quelques secondes pour redescendre assez rapidement en température. Donc, sur les photos du rail notamment, faut imaginer, voilà, l'appareil fait une prise de 20 secondes, faut que le rail se déplace un petit peu et qu'après il enchaîne. Donc, il y a 1 à 2 secondes de stop, en fait, où le capteur peut souffler, entre guillemets. Donc, à ce moment-là, ça permet de réduire, bah, la quantité de bruit. Par contre, l'appareil qui surtrépied et qui enchaîne, toutes les deux, enfin, il finit sa prise, paf, il enchaîne sur la demi-seconde suivante. Il aura tendance à chauffer après. J'ai pas constaté de grosses différences entre la première et la dernière prise de vue. Sur Timelapse, on voit que c'est assez bruité finalement, mais il n'y a pas une différence flagrante en fait qui se voit au premier abord. Sachant qu'en plus là, donc le timelapse a été réalisé début avril, je crois. Et dans le Kara, début avril, il fait en dessous de 0 degré. Donc, en fait, il fait assez froid. Donc, le capteur, il chauffe quand même pas trop, quoi. Donc, par contre, effectivement, s'il aurait fait 20, 25 ou 30 degrés, peut-être les conditions étaient différentes. Mais comme il fait tout le temps froid quand je vais faire mes photos, j'ai quand même moins de bruit que dans des conditions plus normales, on va dire.
C'est ça. Et c'est vrai que dès qu'on s'intéresse un tout petit peu, bon, c'est comme dans tout, hein, dans toutes les thématiques photos, dès qu'on s'intéresse un tout petit peu, on peut vite voir qu'il y a du matériel dédié à des choses très très précises. Ça peut être, bon, en l'occurrence, pas en photographie astro, mais dans d'autres petites photographies, des flashs, des réflecteurs, plein de choses. Dans la photographie astro, si on veut vraiment aller dans le truc, on se rend compte que des fois, il existe des refroidisseurs de capteurs. Il y a des capteurs exprès, hein, ce ne sont même pas des appareils photos, ce sont juste des capteurs et qu'on va les plugger, brancher sur son télescope par exemple, et ces capteurs-là très évolués, caméras très évoluées, elles ont intégré des refroidisseurs, quoi, parce que ça peut vite chauffer. Voilà, donc on se rend compte que ça peut être assez dingue et
le matériel est refroidi à moins 25, moins 35 degrés, donc c'est quand même des températures qui sont froides, hein. c'est pas du 0 ou moins 5 degrés, c'est vraiment du moins, voilà, du ça va jusqu'à moins 35 voire moins 40 degrés en fonction de ce qu'on veut faire. Surtout pour la photo astro, on va poser 5 voire même 10 minutes pour certains objets, donc bah, il faut de quoi refroidir derrière, quoi. Donc effectivement,
c'est fou, c'est vraiment une espèce de course, toujours une course, je sais pas si elle est bien ou pas bien, mais voilà, on se rend compte qu'il y a une difficulté, une problématique matérielle parce qu'on veut faire quelque chose, ben il y aura toujours des solutions, mais on peut vite se ruiner quand même, acheter des choses. T'as fini troisième. On va finir là-dessus avec cette partie sur ton timelapse. T'as fini troisième. C'est comment tu reçois ce genre d'accessite, de récompense. Tu le vois comment? Tu sais bien, c'est pas bien. Tu l'as fait pour ça, pas pour ça. C'est juste une petite cerise sur le gâteau. Le résultat, il te plaît déjà comme c'est. Enfin voilà. Toi, comment tu reçois les choses?
Alors en fait, quand je participe à différents concours, je vise pas forcément. Je me dis pas. Je veux forcément gagner quelque chose. Évidemment, quand je concours, bah, je me dis, ça va être cool. S'il peut y avoir un prix, c'est toujours flatteur, c'est toujours cool. Mais j'ai envie de proposer des choses un peu nouvelles et oser proposer des choses, typiquement ce timelapse ou déjà de nuit. Donc déjà de faire des timelapses de nuit avec un rail, il y en a pas beaucoup de fait. Et en plus de ça, je vais me dire, ok, je fais ça de nuit, donc généralement ce qui me plaît, comme tu disais, ce qui est flatteur, c'est d'avoir la Voie lactée, de photographier forcément la Voie lactée. Et là, volontairement, je me suis dit, bah non, je veux pas forcément la Voie lactée, mais je veux les fleurs. Donc en plus de ça, je m'impose des contraintes. Je me dis, ok, le mec, il va photographier des fleurs de nuit dans le Kara, alors qu'il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de pollution lumineuse ou quoi que ce soit. Et c'est, du coup, je réponds vraiment à ce que je dis, c'est-à-dire le paysage nocturne, en fait, vraiment le paysage qui m'entoure, mais de nuit, pas forcément la Voie lactée ou autre. Et vraiment, c'est de créer une ambiance ce qui nous paraît un peu, je dirais, commun, ou ce qu'on voit à la montagne tous les jours, mais de nuit. Donc c'est vraiment essayer d'oser des choses un peu nouvelles. Et notamment pour ce timelapse-là, je me suis dit, on va aller un peu plus loin en montrant que finalement, vous voyez que il n'y a pas besoin d'acheter du matos à 4-5 000 balles, d'avoir un iOS R6 ou un Z9 ou je sais pas quoi pour faire des photos. Là, j'ai, comme je disais, un Canon 1100D, donc voilà, qui est vraiment de l'entrée de gamme de chez Canon, et un 5D Mark III qui est bien, mais qui commence à se qui commence à se faire vieux. Et mon truc, voilà, l'appareil, c'est pas lui, c'est pas eux qui m'ont dit d'être là à tel moment, à telle heure. Voilà, faut être en fonction du sud ou faut avoir des, une, faut pas être trop encaissé non plus, sinon la montagne est trop, donc on n'a pas de ciel. Donc voilà, c'est plus dans cette optique-là, essayer de proposer des choses un peu nouvelles de ce qu'on peut, de ce qu'on peut proposer. Là, quand j'ai reçu le prix, j'étais content. J'étais content de voir que ça a eu une troisième place. Donc c'est, voilà, je me dis que ça montre que, voilà, qu'il y a le jury qui est sensible justement à une patte un peu nouvelle, à une vision un peu nouvelle des choses, en fait, et pas se contenter uniquement de la Voie lactée, en fait, mais vraiment du paysage au service de la Voie lactée ou des étoiles ou du clair de lune, etc., en fait. C'est vraiment cette idée-là qui me tenait à cœur.
Tu cherches un petit peu après à capitaliser sur cette récompense, je sais pas, à le mettre sur ton site, troisième du concours Intel, tu fais des stages photo, donc forcément quand on est élève et qu'on veut choisir son stage photo, on va aussi être vigilant et puis et sensible à l'autorité du photographe. Donc voilà, il a gagné ça, il a eu suivi telle formation, ça fait partie des choses que tu essayes de mettre en avant aussi, du coup ça.
Je l'indique sur mon site, effectivement, je le mets sur. Sur mon site, quand je fais aussi des publications, parce que je trouve que c'est toujours sympa de partager ça, mais je vais pas, on va dire, je vais pas forcément je fais pas les concours juste pour la notoriété ou comme je disais pour gagner forcément. Voilà, quand c'est un concours qui a de la place, qui a de l'importance, bah, je suis content de pouvoir le partager, en fait. Je trouve ça cool. À la fois, ça, je pense, ça crédibilise un petit peu aussi. Ça permet de voir les gens. En fait, il y a des gens qui me suivent depuis quelques années maintenant. Et, ça va permettre de voir une évolution aussi. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont contentes de voir une évolution, de voir comment ça progresse.
Ouais, complètement. En tout cas, bravo parce que c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Non, c'est un résultat qui est assez bluffant et c'est bien, c'est super. Alors même si sur ton post Insta, tu le dis que ça a demandé tant de temps, tant de prises de vue, on se rend compte déjà un tout petit peu quand même du fonctionnement et de ce que tu t'es imposé. Mais là, tu nous as raconté ça de manière très détaillée et on s'en rend encore plus compte. C'est assez fort. Bravo, vraiment bravo, Jeff. C'est très très chouette et tu le mérites vraiment. Allez, bah on va aller un petit peu plus maintenant, même complètement sur cette belle aventure que tu vis là en ce moment. Alors ça n'a pas commencé, mais tu le vis intensément malgré tout. C'est cette ouverture de galerie photo. Alors justement, j'ai fait un podcast il n'y a pas très très longtemps sur comment tirer parti ou capitaliser vraiment sur une participation à une expo photo. Alors les expos photos, c'est simple, hein, c'est soit toi tu exposes tout seul, mais je sais pas, dans un restaurant, dans un local qu'on t'a prêté pendant un certain temps. Voilà, donc ça peut être ça. Ça peut être, évidemment, on le sait, des festivals ou des salons de la photographie. Mmh. Tu as ton stand, hein, plus ou moins grand, voilà, avec un salon ou un festival plus ou moins important, avec plus ou moins de notoriété. Mais il y a cette façon-là également. Il y a donc les galeries, mais les galeries permanentes, mais qui sont quand même en ville, la plupart. Voilà, pas que, hein. Mais t'es pas tout seul. Dans ces galeries-là, il y a d'autres artistes, et puis c'est pas la tienne, c'est sur un temps pas forcément court, mais déterminé. Il y a un galeriste, hein, qui est là, donc voilà, c'est un autre mode de fonctionnement. Et puis toi, en fait, tu viens de, alors, pas l'inventer, mais tu es en train d'accéder à une quatrième forme, finalement, d'exposition. C'est un peu une espèce de réunification de tous ces mondes-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir ta propre galerie. Alors juste, ça veut dire quoi en fait, en quelques mots, parce qu'après, j'ai plein de questions à te poser là-dessus, mais c'est quoi avoir sa propre galerie finalement alors ? La sienne, ça veut dire quoi ?
Alors en fait, moi de mon point de vue, ce qui rejoint ce que tu dis, c'est de créer, de partager mon univers en fait, d'avoir un endroit où en fait, quand tu rentres là-dedans, c'est mon univers en fait, c'est les photos nocturnes, c'est toutes les aventures que je partage sur les réseaux sociaux, et voilà, on arrive, il y a telle photo, et puis tu peux en parler pendant des heures, soit sur le côté astro, la qualité de ciel, le côté technique, le côté aventure. C'est vraiment ce côté-là, c'est vraiment créer un univers qui m'est propre, en fait, où quand on rentre, ça fait comme une sorte de bulle d'oxygène, en fait, bulle d'oxygène un peu originale, en fait.
Ça veut dire que, on rentre dans ton univers, ça passe évidemment par les photographies que tu vas mettre, que tu vas exposer, bien sûr. Mais est-ce que ça passe aussi, puisque c'est, on va dire, c'est chez toi vraiment, hein, on va voir après comment c'est ton chez toi, mais ça veut dire que c'est, ça va aussi en termes de, sur le côté de la déco, sur les murs, je sais pas, le plafond qui peut être tout noir, j'en sais rien. Enfin, sur une ambiance sonore, ça va jusque là. Tu peux aller vraiment affiner ton univers en allant vraiment chercher tous les détails.
Alors c'est l'idée pour l'instant. Je vais pas faire ça pour l'instant parce que j'attends que les travaux soient finis, d'installer les outils nécessaires, et après quand je serai vraiment dans ma galerie ou là où j'aurai les repères visuels, je vais pouvoir me dire ok, là je peux faire ci, je peux faire ça. Effectivement, le côté sonore, je compte installer un peu de musique en fait, vraiment pour vraiment rentrer dans l'ambiance, de quoi décorer avec les quelques tu vois, typiquement les remises des prix, les petits trophées que j'ai pu avoir aussi, qui permettent d'assouvir un peu le travail aussi. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut se faire vraiment dans les détails aussi. Pour la déco. J'en suis pas encore là parce que j'attends vraiment de tout recevoir, de tout installer. Et tu vois, l'idée, c'est aussi de, en plus de la galerie, de faire un coin où je peux faire mes conférences, où je peux dire aux gens, voilà, la conférence, ça se fait chez moi, enfin, entre guillemets, chez moi. Du coup, en plus d'avoir la conférence, on est entouré vraiment dans mon univers. Donc, ça va au-delà de juste la galerie, ça va au-delà de juste du stage photo. Ça fait une expérience en fait. Moi, quand j'ai mes élèves en stage, je passe ça sous forme d'expérience photo, parce que ça va au-delà de juste apprendre les réglages de base. Je dirais assez simple. C'est vraiment proposer quelque chose en plus, une expérience en fait, un peu unique.
Et alors, tu vois, c'est vrai que en termes entrepreneurial, c'est un conseil qui est récurrent, c'est de se lancer même si on n'est pas tout à fait prêt, et c'est toujours des fois un peu difficile, un peu violent, parce que on n'est pas prêt. Attends, Régis, tu me dis qu'il faut que je me lance et je suis pas prêt, mon site il est pas prêt, mais tu veux que je le mette en ligne, enfin tu vois, mais en fait oui, parce que la vraie question, c'est qu'on ne sait jamais, enfin le vrai truc, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on sera prêt. Donc, comme on ne sait pas quand est-ce qu'on sera prêt, finalement ça peut être une espèce de fuite sans fin, et on se lance jamais, tu vois, de dire j'irai quand je serai prêt, mais c'est quand que t'es prêt en fait? Je sais pas vraiment quoi, j'ai pas vraiment de trucs. C'est ça, donc c'est un peu difficile. Et là, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu vas lancer ta galerie, non, elle sera pas prête, parce que tu dis que tu y penses à cette hyper personnalisation, à faire quelque chose de vraiment qui te ressemble le plus possible, tu y pense, mais évidemment que c'est pas encore là, parce que ça va prendre du temps, parce que tu vas aussi avoir, j'imagine, des retours des visiteurs, tu vas discuter avec eux, et donc tu vas aussi faire ta propre expérience, donc tu vas avoir des idées qui vont émerger parce que tu as été confronté finalement à l'utilisation réelle de ta galerie, quoi. Donc ça va te prendre du temps, mais c'est prévu, c'est-à-dire que tu acceptes, c'est ça finalement.
Ouais, parce que c'est en fait c'est côté objectif en fait, comme tu disais, tu te sentiras jamais prêt parce que t'as des peurs, parce que t'as des doutes, des machins, enfin. Et là, c'était un peu ce qui s'était passé. Moi, j'avais commencé un petit peu à penser l'été dernier déjà. Dans 5-6 ans, ça serait cool d'avoir un petit galerie, un petit coin, tu sais, pour vendre, voilà. Et là, il y a eu cette opportunité des locaux tout neufs qui sont en train d'être faits dans le Kera. Donc je me suis dit, quelque chose de neuf, hyper bien placé, en plus c'est très bien placé dans le Kera, ça court quand même pas les rues, tu vois. Donc je me suis dit, c'est un peu là en fait, c'est un peu là où faut tenter, parce que j'ai pas de grosses responsabilités. Certes, si forcément il y a des peurs, il y a des doutes, mais ça, quand t'es photographe qui n'en a pas eu,
c'est quoi la peur, le doute? C'est de se dire que personne rentrera dedans, c'est que ça va me coûter plus que ça peut me rapporter. C'est quoi finalement les peurs que tu as ressenties, que tu ressens encore maintenant?
Est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce qu'il y aura du monde qui va passer? Parce que est-ce que ça va, est-ce qu'il y aura assez de passages pour rembourser un peu la location, toutes les installations, les luminaires, les tibons, les simèzes, les stocks de cartes postales, de magnètes, etc. Est-ce que ça va le faire pour rembourser tout ça?
En tout cas avoir un retour sur investissement positif, quoi.
Voilà, c'est ça, ouais. Et en plus, comme on a ça en tête, on est quand même obligé d'avancer, de quand même se préparer au mieux, tout en ayant cette boule au ventre en fait, parce que c'est pas parce que t'as peur qu'il faut il faut rien faire, il faut quand même avancer, il faut, voilà, faut tester, et donc t'as le côté subjectif où t'as peur, t'as la boule au ventre, mais t'as le côté objectif où, objectivement, je pense que c'est une bonne idée, parce que t'as du passage, parce que t'as des divers commerces, je suis entouré de commerces, en fait, donc je suis pas tout seul dans mon coin, donc objectivement, bon, il devrait y avoir du passage, après, bah, il faut les chiffres, maintenant, il faut les chiffres qui soient devant, et plus espérer, et imaginer des choses, quoi.
Donc concrètement, donc ça veut dire que tu loues un espace, hein,
ouais,
tu loues ton propre espace, il est à toi, c'est chez toi, et donc cette location ça a forcément un coût, mais finalement c'est comme n'importe quel projet entrepreneurial, c'est comme n'importe quel produit que tu vas lancer, tu as forcément des frais de création, dans l'occurrence là des frais de location, mais finalement c'est aussi à mettre en balance par rapport à ce que ça peut te rapporter, et littéralement ce que ça peut te rapporter c'est la notoriété, c'est des visites, c'est des partenariats possibles, c'est des contacts, c'est un carnet d'adresses qui va s'agrandir parce que des gens vont venir te voir, mais c'est quand même aussi, quand on parle en termes de business pur et donc de chiffre d'affaires, c'est forcément des ventes possibles, des ventes de tes tirages possibles, quoi. C'est ça aussi,
ouais.
Finalement, c'est ce que tu recherches. Le côté direct, c'est ça.
Ah bah oui, après le côté direct, c'est d'arriver à vendre en fait son travail et de voir son travail sous une... sous un format final, parce que je trouve que avoir sa galerie, quand t'es, peu importe le domaine de l'art, hein, sculpteur, peintre... photographe, quand tu vois ton travail sous des formats physiques, ben c'est un peu la finalité et l'aboutissement de tes années de recherche, de tes photos, plutôt que de les voir sur un écran, en fait. Donc c'est même si admettons ça marche pas, quoi qu'il arrive, je serais content parce que j'aurais saisi cette opportunité, j'aurais essayé, j'aurais affronté certaines peurs, des angoisses, et j'aurais vu mon travail sous des formats physiques. Et voilà, j'aurais vu des gens qui seraient passés, des gens qui critiqueraient, des gens qui trouvent ça extraordinaire, inspirant, etc. Donc peut-être que ça va émerger des graines pour d'autres personnes qui veulent tenter de faire la même chose, ou pas forcément exactement la même chose, mais dans cette idée-là, en fait, montrer que c'est possible, en fait, qu'on peut faire ces... Il y a plein de choses à faire, en fait.
Donc là, ça veut dire que tu ne payes pas de commission, par exemple, chez un galeriste. Effectivement, tu as bénéficié d'un endroit qui peut être très très joli, bien placé, belle déco, hyper inspirant. Mais quand une vente se fait, tu payes une commission de galerie parce qu'ils te mettent à disposition son local. Là, t'as pas de frais là-dessus finalement.
Non.
Évidemment, t'as la location, mais je veux dire, t'as pas de commission, donc c'est tout bénéf, on va dire. Et finalement, ce que tu dis là, ça paraît assez logique. Les doutes et les peurs que tu as, je les comprends parfaitement. C'est exactement comme, alors j'ai jamais vécu, hein, évidemment, et je le vivrai probablement jamais, mais c'est comme un cinéaste, un réalisateur ou un producteur qui va de cinéma, qui le jour où le film sort, il y aura une pression énorme, parce qu'en gros, si personne ne vient, certes, c'est un vrai risque financier, ça c'est sûr, mais au-delà de ça, ça veut dire aussi que la vision artistique du réalisateur ou du producteur, ou même peut-être du comédien qui va prendre aussi à bras-le-corps le film, c'est-à-dire que leur vision artistique n'a pas trouvé public, quoi. Et ça peut être très violent pour un artiste.
Ouais,
c'est-à-dire
ouais.
que tu t'investis des années durant dans ton art, et le jour où tu sors le truc, mince, il n'y a personne qui répond, il n'y a personne qui est là, il n'y a personne qui comprend ce que tu fais. Donc ça peut être hyper violent, hein. Finalement, il y a aussi ça, quoi. Il y a le risque financier, ça c'est sûr. En gros, bah, ça te coûte, mais ce que ça te coûte, bah, ça rapporte pas assez. Ça, c'est ok, mais finalement, j'ai envie de te dire, on perd un peu d'argent, et donc voilà, quoi. Bon, c'est pas dramatique.
Ouais,
mais par contre, en termes d'ego, tu vois, en termes d'être humain, en termes d'humain, ça peut être hyper violent le fait de voir que ton art, il est pas, il répond pas.
Ouais,
enfin, en tout cas, les gens
viennent
pas.
Ouais.
Tu le ressens un petit peu, ça, c'est aussi une crainte que tu as?
Alors, cette crainte-là, j'y ai de moins en moins. Parce qu'avant, effectivement, je me disais, enfin voilà, est-ce que ça va, en gros, est-ce que ça va plaire? Est-ce que, voilà, est-ce que je vais avoir du monde, etc. Mais, il y a un moment, je me suis dit, mais je le fais pas pour les autres, en fait, je le fais pour moi parce que je transmets, moi, ce qui me paraît important, ce qui est beau à mes yeux, ce qui me fait vibrer, entre guillemets. Donc, même si ça, il y a des photos, même si potentiellement, voilà, je me dis, bon, ok, ça va peut-être pas plaire. D'un côté, je m'en moque parce que c'est ce qui fait le côté différent et ce qui fait les photos un peu atypiques ou des choses qu'on trouve peu sur Internet. Tu vois, typiquement, le timelapse avec le rail et que je suis juste sur une fleur. Bon, j'en ai à ma connaissance, j'en ai pas vu énormément. Il y en a qui se font quelques-unes, on en trouve, mais il n'y en a pas énormément parce que, il faut oser. C'est des choses qui sont complètement nouvelles, qui changent. Donc, je pense pas qu'objectivement, qu'il y a, à la galerie qui est personne, que je me prenne un bid. Objectivement, je pense pas, mais subjectivement, je me dis, putain, ça se trouve, il y aura personne, tu vois. Voilà, mais
c'est ça. Et ça, on y pense, quoi. Forcément, on y pense.
Forcément,
et là, on se dit, waouh.
Parce que tant que t'as pas les chiffres, bon, les chiffres, ça ment pas. Donc, ouais, au moment, voilà, faut être prêt à ça aussi, puis l'accepter.
Et puis, quel genre de public tu vas avoir? Est-ce que ça va être, c'est ça qui va être hyper intéressant. Je trouve que c'est hyper excitant. C'est, est-ce que ça va être, des personnes qui sont curieuses? En gros, ce qui serait intéressant, c'est que dans un an, on se redonne de rendez-vous, tu vois, et on fasse une nouvelle interview et voir ce qui se passe, voir comment ça s'est passé, voir les résultats finalement, quel genre de personnes. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que dans le web marketing, il y a un fondamental, c'est-à-dire que c'est, en gros, ça part des indicateurs, tu vois. C'est de traquer quelque part ce qui se passe sur ton site, ce qui se passe sur ta boutique, sur ta page Instagram. C'est de voir les chiffres. Après, tu en fais ce que tu veux, mais en tout cas, tu as des chiffres, tu as des datas qui te permettent après de prendre des décisions. Et finalement, ce qui va être intéressant, c'est toi d'avoir des outils qui te permettent de savoir qui sont ces personnes, d'où elles viennent, pourquoi elles sont venues, un petit peu leur envie, leur impression. Ça va être hyper intéressant, tout ça, quoi. Ça veut dire qu'aussi qu'il faudra que tu sois présent régulièrement, quand même. Ça va être... on n'ouvre pas une galerie à soi, c'est pour y être... j'imagine 3 heures dans la semaine, c'est pas viable, c'est pas possible, ça.
Non, là, l'idée, c'est vraiment de d'y être tous les jours, en fait. Surtout l'été et l'hiver, parce que c'est il y a beaucoup d'activités touristiques dans le Kera, c'est essentiellement touristique. Donc c'est d'y être tous les jours, mais à la fois aussi d'ouvrir une en dehors des périodes scolaires, en fait, parce que malheureusement, alors. C'est pas que dans le Kera, mais de manière générale, quand t'es à la montagne ou même quand tu es dans les stations balnéaires, tout est ouvert en saison, mais hors saison, tu veux boire un café, et des fois, c'est compliqué, quoi. Alors qu'il y a des gens, il y a des touristes qui passent les week-ends en octobre, en novembre, qui passent, il y a des fois, tu vas à Saint-Véran, essayer de trouver un café, de boire un café en mai à Saint-Véran, c'est pas possible, tu vois. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais d'un autre côté, je comprends les commerçants qui n'ouvrent pas, parce que si tu ouvres pour une personne tous les deux jours, il y a un moment, non, tu fermes, ça, c'est normal. Donc, l'idée, c'est aussi d'arriver à ouvrir en dehors des périodes scolaires quelques jours dans la semaine et d'être présent. Parce que jusqu'à présent, tous les étés, je bossais en tant qu'animateur scientifique à l'Observatoire de Saint-Véran. Donc là, c'est le premier été où je n'irai pas du tout, en fait, où je me consacre vraiment 100% de la photo. Donc, je vais y être le plus possible et essayer de voir ce qu'il en est. Donc, c'est vraiment le grand saut là. Tu vois, j'ai une paire d'as dans la main, j'ai plus beaucoup de sous au poker. Il me reste peut-être 50 pièces. Je suis un tapis, puis je vais voir ce qui va.
C'est top. Ça, c'est le vrai. Enfin, c'est du bon stress, quoi. C'est pas le stress bloquant, c'est le stress qui fait avancer. C'est la bonne adrénaline. Et ça, c'est génial. C'est des projets vraiment entrepreneuriaux. Je trouve qu'ils font vivre. Est-ce que finalement tu deviens pas un photographe? Et à nouveau, ça n'est pas péjoratif. C'est juste un constat. Il n'y a pas de jugement de valeur. Un photographe qui devient commerçant de ses photographies.
Moi, je vendais déjà mes photos sur Internet. Donc, en soi, concrètement, ça reste du commerce. Donc, en fait, on peut dire que je faisais déjà du commerce dans le sens où je vends mes photos, tu vois. Là, je vais faire des produits déclinés parce que moi, ça me plaît, notamment des petits manuels, des cartes postales, des marque-pages. D'ailleurs, il y a une série que je suis en train de sortir en format marque-page, en fait, qui est encore une autre idée de photo. Et quand tu as expliqué, ça donne vraiment tout son sens. Des calendriers également. Donc, on peut dire que je deviens un commerçant aussi. Parce que je pense, en tant que photographe, faut arriver à se vendre et à vendre un peu de sa sensibilité. Et puis de proposer ça aux gens, pour tout le monde, en fait. Hein, pour tout le monde, presque tout le monde. Quelqu'un qui veut repartir avec une photo originale, il peut, un petit format ou autre. Donc, forcément, après, l'idée, c'est de gagner sa vie, en fait. Pouvoir gagner sa vie, en fait.
Et là, tu vas voir le côté vendeur qui va être là, et en temps réel et en direct, et ça va être hyper puissant et beaucoup plus fort que juste mettre tes photographies sur une boutique, aussi belle soit-elle. Ça va être forcément beaucoup plus fort, donc tu vas, t'as un potentiel de vente qui est juste énorme par rapport à un site en ligne.
tu vois physiquement les photos, tu vois l'auteur en plus, tu vois le photographe, donc tu discutes avec lui, tu le rencontres. Enfin, il y a quand même une plus-value que tu n'as pas sur un écran, en fait. Que ce soit un écran d'ordinateur ou un écran de smartphone, alors tu peux avoir des coups de cœur, il y en a, hein, mais c'est vrai que les voir en physique, t'as une ambiance musicale, t'es avec le photographe, ça fait vraiment, en plus, potentiellement d'acheter une photo, tu vis une expérience, en fait, tu vis quelque chose que tu vis que là, parce que tout est fait de sorte à ce que qu'il y ait une ambiance unique qui soit créée, quoi.
Par contre, alors là, je suis en train de réfléchir aussi, parce que je trouve que le projet est vraiment génial, et le concept est top. Il n'y a pas mieux pour vendre ses photographies, obligatoirement. C'est comme ça que ça doit se passer, finalement. C'est être là avec les futurs clients, avec les prospects, pour vendre tes photographies. Okay. Mais malgré tout, c'est exactement comme un site, finalement, parce que c'est quand même plutôt mon domaine, le web marketing. Mais je veux dire, si tu ne crées pas d'événements, si tu ne fais pas des choses pour faire venir les gens sur ton site internet, je veux dire, moi, quand je fais des webinaires, là, je fais un podcast avec toi, c'est un événement pour après, au final, faire venir des gens sur mon site à moi, oui. Tu vois. Donc, tu vas créer des choses, la plupart du temps gratuites, pour que ça amène, ça draine du ouais, volume ouais. de visiteurs qui, pour après, ben, à la fin, c'est vendre des choses. Mais c'est pareil pour ta galerie. Si tu, j'exagère et je sais que tu ne feras pas ça, Jeff, mais si tu attends derrière ton bureau, les bras croisés, et attendre que les gens rentrent par curiosité, finalement, il va finir par pas se passer grand-chose. Quel genre d'événement tu pourrais créer pour... Alors, c'est vrai que c'est un côté artificiel. Tu vas te créer des choses pour que les gens viennent et pour te faire découvrir. Mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais créer de manière à ce que tu ne sois pas juste le galeriste qui attend que les gens viennent tout seuls, quoi.
Pour l'instant, ce sont les conférences que je propose. Les conférences gratuites, en fait. Où justement, c'est de faire une introduction, en fait, de mon univers, en fait, montrer, les photos de nocturne, en fait, comment c'est fait, pourquoi on en fait ici. Donc, ça parle du Kera, des conditions atmosphériques, la qualité de ciel, etc. Et montrer que, un peu, l'envers du décor, en fait, comment on fait ces photos-là sans avoir cette fausse idée de dire c'est du montage, c'est du Photoshop, ça n'existe pas, etc. Montrer un peu qu'est-ce qui fait qu'on voit en couleur, parce que les yeux sont pas capables de voir ces couleurs-là, ce qu'on est en nocturne. C'est vraiment essayer d'immerger la personne et du coup de sensibiliser du coup ces gens-là à cet univers-là, et donc de mieux comprendre, en fait, de repartir de là avec quelques connaissances qui permettent aux gens de comprendre, en fait, de quoi il est question, et de se dire donc c'est comme ci, c'est comme ça. Et donc du coup, ça, étant donné que tu donnes de l'information gratuite aux gens, les gens ont cette sensation de repartir avec des vraies infos qui permettent de mieux comprendre les photos et se dire je comprends pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme si, je comprends pourquoi il y a cette lumière.
Ouais, tu éduques les gens, quoi.
Exactement, ouais.
Il y a un potentiel, mais fabuleux, quoi. J'étais allé il y a un an, l'été dernier, alors c'est pas la photographie, c'était un artiste du coin qui fait ses peintures sur un genre un peu particulier, enfin tout est particulier finalement, mais voilà, c'était son style bien à lui. Et en fait, je crois que c'était une fois par semaine, il organisait avec un collègue magicien, enfin un ami magicien, une soirée magie. Et ça allait parfaitement avec son univers d'artiste, d'accord. Tu vois, un peu ésotérique, un peu machin, tout un peu mystérieux. Donc une fois par semaine, soirée magie, ce qui fait que le magicien, il communique à son réseau. Venez ce soir, j'ai soirée magie, donc venez tous, machin, tout ça. Évidemment que le galeriste, l'artiste va aussi communiquer à son propre réseau. Mais au final, il y a plein de gens qui viennent. C'est toujours pareil, une toute petite partie va être intéressée, et encore une toute petite partie va finir par acheter, quoi. C'est la même chose, hein. C'est une espèce de taux de conversion. Okay. Mais voilà, ce sont ce genre d'événements-là, en créant des synergies avec des partenariats, avec des collègues photographes, avec des gens qui font des produits locaux, du miel, j'en sais rien, il y a tout à faire.
Ah ben il y a plein de façons de faire. Ouais. Mais surtout qu'on est vraiment, dans un coin où il y a beaucoup de production locale, des artisans, etc. Donc le fait qu'en plus je fais des photos, c'est pris dans le Kera de nuit, c'est fait en France, et le fait de dire ce soir présentation d'autres produits ou autres, mais du local, on reste encore plus dans le local, vraiment dans le côté production vraiment local du Kera, donc ça ajoute quelque chose, je pense, quelque chose en plus, même si c'est pas du tout les mêmes, forcément les mêmes domaines, mais c'est dans le même état d'esprit, en fait.
Est-ce que tu as fait une espèce de petit business plan qui serait de dire, ça me coûte tant, le loyer, je sais pas, l'électricité, peut-être des travaux à faire, voilà, ça me coûte tant. Et je sais que je dois vendre tant de tirages par mois en moyenne pour entrer dans mes frais ou par rapport à avoir ton chemin d'affaires. Tu as fait ce travail préparatif là?
Ouais, je l'ai fait en amont. Parce que en fait j'expose déjà à la maison des artisans du Caire, en fait, où j'ai un petit stand, en fait, où du coup je fais des ventes, donc je vends déjà mes photos et d'autres produits. Donc en fait avec ça, ça me permet, donc depuis décembre, donc c'est assez récent finalement, et ça me permet de voir en fonction des grosses saisons et des saisons un peu plus creuses, où en fait je me dis bon, ok, là, je fais tant de chiffre d'affaires. Moi aussi, je fais tant de chiffre d'affaires. Je vois qu'il y a un ratio qui est là. Je fais bon, ok, potentiellement, que l'année prochaine, je ferai, voilà, ce tel mois, je ferai 2 ou 3 fois plus ou 2 ou 3 fois moins de chiffre d'affaires. Donc, je me suis dit, je vais me baser de ça. Je vais partir de là. Et sachant que la plupart des gens qui passent à la maison de l'artisanat, en fait, il y a tout. T'as du miel, t'as du fromage, t'as des gens qui font des ceintures en cuir, des sculptures sur bois, t'as tout, et t'as moi qui fais des photos. Donc je me dis, t'as quand même vachement de gens qui passent, qui connaissent pas forcément. Et je me suis dit, les gens qui vont venir à la galerie, il y a, je pense, un taux de conversion qui serait potentiellement un peu plus élevé. Et donc à partir de là, je me suis dit, bon, ok, je vais estimer un tant de chiffre d'affaires pour l'année, et puis voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire, et puis j'ai fait, pour l'instant j'ai fait comme ça, ouais.
Maintenant, tu as un endroit en dur. Bon, c'est pas le tien, qui est celui de la maison des artisans, mais ça, tu vas avoir bientôt le tien. Malgré tout, est-ce que tu peux dire, confirmer ou affirmer que on vend plus facilement, certes, ça engage des frais plus importants, mais on vend plus des tirages quand les gens ils les voient dans un local, dans une petite galerie, que s'ils les voient que sur ta boutique.
En ligne, tu veux dire boutique en ligne?
Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Boutique en ligne, ouais.
Ah bah, je pense que j'ai été l'autre jour justement à la maison des artisans, où j'amenais des nouvelles photos, des nouveaux petits magnets. Et j'étais devant mon stand, j'installais mes magnets. Et puis les gens qui commençaient à me poser des questions, je parle des photos, des machins, donc ça faisait venir des gens. Et les gens disent, ah tiens, je vais vous en prendre un. Et donc, j'étais là et j'ai les deux magnets qui sont partis, tu vois, parce qu'ils auront vu on sera rencontrés, parce que tu vois la chose physiquement, tu vois la personne. J'avais fait une expo sur Gap il y a un mois à peu près. Pareil, je sais qu'il y a des gens qui étaient prêts à acheter des tirages. Il y en a qui m'ont demandé si j'avais pas des cartes postales ou autres. C'est le deal, c'est qu'on prête la salle, c'est la mairie qui prête une salle, et le deal, c'est on n'a pas le droit de faire de vente sur place, donc du coup, je dis, ça va être un peu compliqué. Le souci, c'est que, si tu leur dis, sinon, fin de semaine ou autre, ce qu'ils veulent, c'est un coup de cœur, c'est tout de suite, tu vois.
C'est ça.
C'est tout de suite. Alors que sur Internet, tu peux être, tu peux être dans les transports, tu peux être aux toilettes ou quoi, tu peux checker ton feed. Tu vas pas dire, t'es en train de poser ta pêche, tu vas pas dire, tiens, je vais commander la photo.
Tu vas la trouver belle, la photographie, comme tu la trouverais belle, pareil, dans la vraie vie, sauf que tu vas pas l'acheter parce que voilà, on est tous pareils et que non, t'achètes pas comme ça aussi facilement qu'en vrai. T'as un coup de cœur, t'es là, t'as presque l'émotion qui vient, quoi. Allez, j'y vais, allez. Ouais. Je craque, j'y vais, je l'achète.
Parce que en plus, sur Internet, il faut que tu arrives. La photo, c'est bien, mais ça fait peut-être à peine la moitié du travail quand tu fais ton post. Si ton texte, il est bourré de fautes d'orthographe ou qu'il n'est pas présentable ou que finalement, tu transmets de rien d'autre, de quelque chose d'original par rapport aux autres, finalement, ta photo, elle a moins de valeur. Tu vois, tout de suite, elle a beaucoup moins de valeur, alors que ça reste la même photo. Alors que si tu rencontres la personne en vrai, tu vois, tu sens la passion, tu sens que voilà, c'est bien expliqué, tu réponds aux questions, tout de suite, t'es avec la personne, en fait, t'as les 5 sens, t'as l'ouïe, t'as l'odorat, t'as le toucher, t'as la gestuelle, tu vois la personne en vrai.
T'as les souvenirs, t'as l'émotion.
Tu crées une expérience, encore une fois.
Et surtout, tu vas, et quand tu reviens après, et même un an après, à la limite, on s'en fout, finalement, je veux dire, les gens mettent beaucoup, beaucoup de temps à se décider, mais quand tu reviens, T'as l'émotion qui joue, t'as vraiment la Madeleine de Proust, quoi, tu vois. T'as, je sais pas, t'as fait une balade. Bon, pour le coup, je prends ton exemple à toi dans les Alpes, mais t'as fait une promenade, t'as fait une semaine de rando, t'as envie de ramener un vrai souvenir, tu tombes sur ta galerie, donc bah ouais, bah c'est génial. J'ai ramené cette photographie-là parce qu'elle illustre parfaitement la semaine que je viens de vivre. Enfin, mais je veux dire, voilà, en Bretagne, c'est pareil. Et tu fais de la photographie, ça dépend du type de photographie, évidemment. C'est peut-être pas les mêmes souvenirs qui vont aussi émerger, mais non, mais il était évident que dans la vente de tirage, d'avoir son endroit pour vendre, c'est l'endroit rêvé, c'est la meilleure façon d'y arriver.
Moi, que c'est l'aboutissement presque ultime, en fait, parce que du coup, t'es tout seul, tu gères ton truc, t'as juste ta déclaration URSSAF, ton loyer à payer, mais à part ça, t'as pas de compte à rendre, t'as pas de, tu vois, tu fais les horaires que tu veux. Si tu veux ouvrir 3 jours dans la semaine, tu le fais. Si tu dis, bon, bah, ce week-end-là, je suis pas là parce que j'ai une photo à faire ou j'ai un truc, bah, voilà, tu peux te permettre de faire ça. Donc, c'est cool. Enfin, en soi, c'est cool, mais c'est vrai que derrière, bah, tu fais tout seul, t'as tout à préparer, donc c'est un peu l'envers du décor, forcément. Mais c'est hyper flatteur. Je trouve que c'est très cool de, au moins, tenter l'expérience, tu vois. Je me dis, je peux pas ne pas tenter. Il faut essayer. Et puis, bah, tant pis, si j'en rame un peu, si ça manque un peu de sous, bah, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Et puis voilà, parce que c'est là qu'il faut le faire, parce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de grosses responsabilités. C'est maintenant. Enfin, je suis un peu coincé, en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est un peu bâtard de dire ça, mais je suis un peu coincé dans. Enfin, où j'en suis, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est bien, mais du coup, t'es. Voilà, si tu veux saisir les choses, c'est un peu là, quoi.
Je te remercie infiniment, Jeff, d'avoir passé du temps à nous expliquer tout ça, parce que c'est. C'est forcément, on sait que le temps forcément est précieux, et particulièrement pour toi maintenant, à peu près à 15 jours de l'ouverture de ta galerie. Donc j'imagine que chaque minute est comptée. Donc merci beaucoup d'avoir consacré du temps à mes questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur les réseaux pour le coup, en ligne. Ouais, et dis-nous quand même l'adresse précise où se situe ta galerie.
Alors c'est sur, alors c'est dans les Alpes, dans le département des Hautes-Alpes, en fait, c'est dans le Queyras. Précisément, c'est à Villevieille. Villevieille, c'est route de Saint-Véran. Voilà, c'est vraiment.
Le code postal ? Le
code postal, c'est 05-350. Alors, la ville, c'est Château-Villevieille, mais c'est dans la ville de Villevieille, qui est une commune de Château-Villevieille, qui est vraiment à côté de l'office de tourisme, de la maison des artisans.
Voilà, donc, si vous écoutez ce podcast-là, là maintenant, vous n'êtes pas trop loin de la région, allez y faire un tour et ça va être top. Voilà. Et sur les réseaux, on te retrouve où, Jeff ?
Sur Facebook et Instagram avec Jeff Graphy, G-R-A-P-H-Y, dans les deux cas, hein, soit sur Instagram ou Facebook, où je partage régulièrement un peu l'envers du décor des photos. Hein, quand je fais mes photos, je partage. Voilà, la montée, ce que j'ai eu froid, ce que c'était cool, est-ce que je vais y arriver, voilà, etc. Un peu vraiment l'envers du décor, quoi.
Et donc, on se donne rendez-vous dans un an, si tu es d'accord, Jeff, pour,
oui.
du coup, voir comment ça s'est passé, quoi.
Ouais, avec grand plaisir. Je serais bien partant, ouais, grand plaisir.
Super. Merci beaucoup à toi.
Ouais, merci, à bientôt.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify et que l'épisode vous a plu, bien dites-le en laissant un commentaire sur une de ces deux plateformes. Ça permet de faire remonter le podcast dans les classements et ça m'aide beaucoup pour le faire connaître. Merci.